Poker Menteur.
Poker Menteur.
Avec Patrick Trouilloux dans le rôle de Patrick Trouilloux
et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
L'émission qui interroge le monde.
De Villefranche à Tataouine.
Galade. 100.9.
Auditeur de Calade, bonjour, vous écoutez Poker Menteur, votre émission mensuelle préférée. C'est le mois de juillet, hourra, il fait beau, c'est l'été, on est content. On a donc rassemblé la petite troupe de Poker Menteur au complet pour une émission historique. C'est étonnant, ce sont tous des historiens, donc voilà, on leur a fait plaisir. Une émission sur la Révolution française, donc en lice pour participer à cette émission, Geneviève, honneur aux dames.
Bonjour tout le monde.
Jean-François, honneur aux jeunes.
Bonjour tout le monde.
Et au moins jeune. Honneur au pilier de Poker Menteur. Ah,
bonjour prof Pat, comment vas-tu?
Ça va très bien. Donc c'est vous qui allez bosser, moi je vais faire Monsieur Loyal, je vais me reposer, c'est cool. Nous parlons de la Révolution française en trois parties. Une première partie où on va parler du couple royal. Ça c'était un désir de Franck, donc tu vas lui parler du couple royal, on va apprendre plein de trucs. Deuxièmement, on va se poser la question, mais bon sang ma bonne dame, mais comment ça se fait? Comment en est-on arrivé là, je parle de la terreur,
ouais.
N'est-ce pas Jean-François?
Exactement.
C'est la question qu'on se posera. Et enfin, Geneviève, qui est cohérente avec sa chronique « Histoire de femmes, femmes d'histoire » dans « Tous ensemble sur Calade », va nous parler du rôle des femmes dans la Révolution.
Rôle des femmes et surtout essayer d'abattre un petit peu tous les clichés qu'on peut avoir sur les femmes.
Ouais, je crois que tu voulais abattre les hommes, mais bon.
On va commencer par les clichés, on verra après pour les hommes.
Rassure-toi.
N'ayez pas peur non plus, hein, les chers auditeurs.
D'accord.
Tout va bien se passer.
On va s'accrocher.
Alors, en fil rouge de cette émission, on a choisi, alors merci Franck, l'érudit de la Révolution française.
Merci pour ce petit mot sympathique.
Voilà. On a choisi de vous passer des extraits d'un très vieil opéra rock qui s'appelait La Révolution française dans les années 70, un truc génial, qui avait été écrit globalement par Claude-Michel Schoenberg, que tout le monde a oublié, c'était un compositeur français de talent. Et donc vous verrez, on passera régulièrement des extraits qui seront liés aux interventions de chacun de nos lascars ici présents. On va commencer, messieurs, dames, c'est parti. Alors on va laisser la parole à Franck. Hein. Franck, dans un premier temps, tu nous parles du couple royal. Nous t'écoutons.
Allons-y pour le couple entre Louis-Auguste de France et Marie-Antoinette d'Autriche. Ah, ce couple. Eh ben, ce couple, c'est quoi au départ? C'est la maison, en fait, des Bourbons qui vont... Donc la maison de France qui va essayer de se rapprocher d'un ennemi qui remonte à plusieurs siècles. Hein. C'est les fameux Habsbourg d'Autriche. Et donc, on va organiser, on va préparer un mariage absolument gigantesque, à Paris, surtout à Versailles, évidemment, en 1770, où à l'époque, nos tourterons sont très jeunes. Patrick, une petite question à ton avis, cette chère Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, à quel âge, à ton avis, quand elle se marie avec le futur Louis XVI?
Elles sont jeunes, hein, cet âge-là, 16 ans, non?
Exactement.
Donc, toute jeune, toute fraîche.
Lui, exactement, lui à 16, elle... 14 ans.
Il y a des couples qui se sont mariés beaucoup plus jeunes.
Ouais, c'est vrai.
Mais par rapport à ce qu'on connaît maintenant, ça paraît vraiment assez jeune. Et autre question, et là on va parler de la fratrie. Mm-hmm. Notre cher Louis-Auguste de France, donc Louis XVI, mm-hmm. Combien de frères et sœurs à ton avis?
Alors ça, j'en ai aucune idée, donc je vais faire au pif. Il devait avoir deux frères.
En tout, il y a 8 frères et sœurs, dont 4 frères, dont 2 qui vont devenir rois de France ou des Français, c'est-à-dire Louis XVIII et Charles X.
D'accord.
Mais il y a mieux. Mm-hmm. Marie-Antoinette, combien de frères et sœurs?
Bon, bah, ça doit être dans le même modèle, on va dire 6 frères, 12 sœurs.
15 frères et sœurs.
J'étais pas loin.
Elle... À 3 près, moi je te donne, ton point.
Merci. Elle domine quand même Céline Dion, vous voyez, donc évidemment petite allusion au XXe siècle, on va dire. Et donc voilà, donc ce mariage qui d'ailleurs, mauvais présage. Nous sommes en mai 1770 et qu'est-ce qui se passe? Évidemment, vous avez des feux d'artifice, donc on est fin mai 1770. Et puis il y a eu des mouvements de foule et malheureusement, suite à ce mouvement de foule, il y a eu une centaine de personnes qui ont été piétinées. Place Louis XV.
D'accord.
Alors, place Louis XV, ça ne vous parle pas, mais si je vous dis après place de la Révolution et place de la Concorde, je pense que ça vous parle.
D'accord.
Pourquoi? Eh bien, on va en reparler à la fin, parce que c'est le point de départ de leur mariage, mais ça va être aussi leur point final au niveau de leur vie, parce qu'ils vont être guillotinés les deux au même endroit, quelques décennies plus tard.
D'accord.
Donc le mariage a lieu en 1770, mais ce brave Louis XV est toujours vivant. Et meurt, date que je connais par cœur, le 10 mai 1774. Pourquoi ? Parce que, chers auditeurs, je suis né un 10 mai. Et donc ça fait partie des dates que j'ai dû retenir très vite en histoire.
Sacré Franck.
Et Louis XVI donc, devient... Par la suite donc, du décès de Louis XV, devient Louis XVI, devient roi de France à ce moment-là. 10 mai 1774, il est encore un petit peu jeuneau, il a 20 ans, et il va essayer d'apprendre le métier de roi un peu sur le tas, même s'il a déjà appris ce métier un peu avant, hein, c'était le dauphin. Même si c'était, je rappelle, au niveau du lien de parenté, ce n'était que le... petit-fils de Louis XV. Et puis, il n'est pas très assidu avec Marie-Antoinette. Enfin, on va dire qu'au départ, ça a été compliqué. Il n'a pas repris, par exemple, l'assiduité qu'avait son grand-père vis-à-vis des femmes. C'est plutôt quelqu'un qui va aimer la chasse, qui va aimer la géographie, qui va financer des expéditions. Enfin,
il disait pas aussi qu'il aimait bien fabriquer des serrures ou je sais plus trop
c'était
quoi.
C'était ça, oui, il aimait bien tout ce qui était horlogerie, etc. Voilà, ouais. Donc, mais bon, au niveau des femmes, c'est pas trop son truc.
Déjà de parler d'un premier cliché là.
Peut-être.
Alors justement, le roi maladroit,
stéréotype cliché.
Je te laisse justement rebondir là-dessus après, mais revenons à des choses un peu plus gravissimes. C'est-à-dire que nous sommes là dans les années 1786-1789, la guerre la révolution américaine se termine. La France a financé une grande partie des révolutionnaires américains. Attendez un retour sur investissement, si je puis dire, puis on n'a pas du tout. Les dettes sont considérables, donc il faut faire des réformes. Et c'est là où on va entrer petit à petit dans le début de la Révolution française. Donc il faut faire des réformes. Et puis, il y a un ministre qui lui dit, notamment Necker, lui dit, sire, il faut absolument rassembler, faire quelque chose par rapport aux dettes que l'on a au niveau du royaume. Donc il faudrait, par exemple, convoquer les États généraux le plus rapidement possible pour faire une réforme fiscale.
Parce qu'il fallait les États généraux pour faire cette réforme fiscale.
Il faut réunir les trois ordres. À l'époque, sous l'Ancien Régime, je précise qu'il y avait donc, en gros, la société était divisée en trois. Il y avait la noblesse, donc en gros, qui représentait entre 1 et 2% de la population.
Mais donc, aux États généraux, ils représentaient combien ?
Alors attendez, je vais en parler
je
après.
Je spoil trop vite.
Il y avait la noblesse et le clergé, donc tout ce qui touche au monde de l'Église, qui représentait... 3%, 4% de la population. Mmh. Et tout le reste, 97% de la population, le tiers État, c'est-à-dire tout le reste, qui devait supporter, en fait, les dépenses somptueuses d'une partie de la noblesse et d'une partie du clergé. Et on voulait faire une réforme dans le sens où on proposait, évidemment, à tout le monde de payer des impôts, y compris à la noblesse et au clergé. Puis ça ne plaisait pas du tout à ces deux ordres.
D'accord.
Mais comme au moment des États généraux qui vont commencer donc en mai 1789, au moment des États généraux, qu'est-ce qui se passait à l'époque ? Quand on votait pas par tête.
Oui, c'est ça, voilà.
Sinon, évidemment, le tiers État aurait toujours eu gain de cause.
Proportionnel.
On votait effectivement par ordre.
D'accord.
Et donc, si vous avez trois ordres, donc deux qui représentent 3% et qui sont contre le fait de payer les impôts, et un qui représente 97% des gens qui, eux, ils veulent que tout le monde paye des impôts, comme c'est, on va dire, un système qui n'est absolument pas démocratique, qui donne forcément raison aux deux ordres dominateurs, qu'est-ce qui va se passer ? C'est là où ça va coincer. Cette réforme fiscale, leur proposée au début des États généraux, va aboutir petit à petit à tout d'abord une révolte, évidemment, du tiers-État, et ce qui va suivre après, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Révolution française.
Moi, Louis XVI, roi de France, par la grâce de Dieu le Très-Haut, je déclare ouverte la séance des États généraux. J'espère en votre sagesse pour mener à bien ses travaux. Oui, sire, bien sûr, nous ferons notre devoir, toujours soucieux de ne pas vous décevoir. Oui, sire, bien sûr, vous pouvez faire confiance à la loyauté de la noblesse de France.
Chassons le spectre de ces changements dont rêvent encore
les ennemis du bien public qui veulent nuire à la rénovation dont votre majesté a déjà fait sa politique.
Oui, sire, bien sûr, vous pouvez faire confiance à la loyauté de la noblesse de
Bien, donc les états généraux se terminent dans une ambiance assez tendue. La création de l'Assemblée nationale, c'est quoi ? En fait, c'est tous ces députés de cette réunion, donc des états généraux, qui décident en fait de quitter en fait à ce moment-là donc les ordres du roi et qui vont désobéir et créer l'Assemblée nationale pour essayer de mettre en place une constitution. Et qui va évidemment s'opposer absolument à ce qu'on appelait à l'époque la monarchie absolue, c'est-à-dire que le roi est fortement chahuté à travers ce qu'il représente. Et pour moi, le début de la révolution est une réforme qui n'aboutit pas, qui va aboutir à une révolte. Donc là, c'est la révolte des députés, notamment évidemment du tiers-état, vis-à-vis de son pouvoir absolu, et qui ensuite, vu que en fait le roi ne veut pas lâcher ses pouvoirs, va aboutir à long terme à une révolution. Alors,
juste Franck, donc du coup, en clair, ils réclament quoi, les révolutionnaires, enfin les futurs révolutionnaires ?
Alors, je n'ai pas précisé, mais ils réclament tout simplement au départ, si je reprends par rapport à ce qui se passe donc au niveau des... au niveau de la réunion donc des états généraux, il réclame un vote par tête. C'est-à-dire, en fait, il réclame la démocratie.
Ouais, plus de démocratie, tout bêtement. Ouais.
En fait, c'est tout simplement ça. Il réclame une forme de démocratie
qui existe déjà
en Angleterre. Donc, ils veulent un peu la même chose.
D'accord,
ils veulent une monarchie
constitutionnelle. Il y a l'exemple anglais derrière.
Ils ne veulent pas, au départ, un système forcément qui va rejeter le roi.
Non, oui, tout à fait.
En
fait,
il y a une volonté.
Il y a la volonté de donner du pouvoir. Un pouvoir plus démocratique à ceux qui représentent les élus de la nation, c'est-à-dire les élus des États généraux, donc les futurs députés de l'Assemblée nationale.
Très bien.
Donc voilà ce que c'est. Et alors, évidemment, le problème, c'est que... Alors, encore une fois, c'est des rumeurs, mais Louis XVI et Marie-Antoinette ont eu 4 enfants. Ils ont perdu une fille très très jeune juste avant la Révolution. Et pendant la Révolution, pendant ces États généraux, il va perdre un de ses garçons. Et alors encore une fois, c'est une rumeur, c'est la réalité. Beaucoup d'historiens estiment qu'il a été affaibli psychologiquement et qu'à partir de ce moment-là, il aurait pris des très mauvaises décisions qui auraient accentué encore plus, on va dire, la tension qui existait déjà depuis un moment entre la future bourgeoisie, c'est-à-dire les représentants des états généraux du côté du tiers-état, et la noblesse et le clergé. Alors si on avance dans le temps aussi, donc... Le roi est toujours à Louis XVI, ça se tend, notamment il y a des problèmes de alimentaires à Paris. Donc qu'est-ce qui va se passer avec le temps ? Il y aura une inflation, je ne rentre pas dans les détails. En gros, le peuple parisien a de plus en plus faim, donc on est fin 1789, en octobre. Et c'est là où vous avez le retour du roi à Paris de force, notamment par les femmes qui vont venir le chercher.
Le 6 octobre.
Le 6 octobre.
C'est bien, tout le monde a récité cette chanson.
Sauf moi, mais moi je suis le mauvais élève, ça va.
Et il rentre à Paris et donc on va dire qu'il va être obligé de s'y installer pour un certain temps. Donc il s'installe au palais des Tuileries avec toute sa famille. Mais Marie-Antoinette et Louis XVI n'aiment pas cette situation, notamment... en 1791, on lui interdit d'aller à Saint-Cloud pour fêter les fêtes de Pâques. Alors évidemment, c'est toute une accumulation de choses. Et pendant ce temps-là, on a l'impression, enfin le peuple parisien, notamment les Saint-Cloudiens, on a l'impression que Marie-Antoinette influence de plus en plus le roi de France. Et patatrac, qu'est-ce qui se passe en 1791 ? Là, on est en juin 1791. Fuite du roi et de sa famille.
Ah oui.
On ne retrouve plus le roi, donc le 20-21 juin 1791. Mmh. Où est passée la famille royale ? Mmh. Et c'est là où il y a vraiment une rupture marquée entre le peuple parisien et français.
Et le couple royal.
Et le couple royal. Et surtout vis-à-vis du roi de France.
D'accord.
Déjà, Marie-Antoinette n'était pas aimée du tout. Mmh. On l'appelait, elle avait des surnoms pas très glorieux. On l'appelait l'Autrichienne, on l'appelait Madame Veto, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout à l'heure... Geneviève nous en parlera.
C'est ma mission,
voilà.
J'accepte.
Et il est reconnu, hein, par un certain Drouet à Saint-Ménéhould. Donc il va en direction de l'est de la France. Hein, il veut retrouver des troupes justement qui lui sont fidèles, hein, et notamment des troupes qui sont proches, on va dire, des milieux extérieurs de la France. Et donc là, on l'accuse de trahison. Il est revenu de force. Il est revenu de force à Varennes. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, il va être très rapidement mis sous surveillance. Puis, nous sommes en 1792. Nous sommes en août 1792. On a clairement l'impression que le roi veut passer du côté de l'ennemi. Et là, c'est la catastrophe. Il va être très rapidement, donc, lui et sa famille, donc, on va le protéger au début de l'Assemblée nationale. Il sera très rapidement donc, mis en prison au temple, où là commence donc une période absolument terrible de l'histoire de France, où là, Louis XVI n'existe plus, il n'est plus rien du tout. On l'appelle Louis Capet et il sera jugé par l'Assemblée, donc par les députés de la Convention. À l'époque, c'était la Convention, on disait pas Première République. Il sera jugé, condamné à mort et guillotiné le 21 janvier 1793.
Pocarmenteur.
Pocarmenteur.
Galade.
Parmi vous, je cherche en vain des juges et je ne vois que des accusateurs. Et cependant, pour aucun d'entre vous, il n'y a d'amertume dans mon cœur. Je n'ai pas fait cette ignominie. Je n'ai jamais trahi mon pays. Mon seul crime a été de l'aimer. La vie m'a réservé bien des infortunes et la mort ne me fait pas peur. Je forme des vœux pour que vous conduisiez la France hors des voies du malheur. Gardez-la mieux que je l'ai gardée, à l'abri de ses propres excès. S'il se peut, aimez-la mieux que moi. Qu'on prenne soin de ma famille, qu'on prenne soin de mes enfants, sont les seules faveurs que j'attends de votre bonté.
Donc on vient d'écouter un monologue entre guillemets du roi assez émouvant dans cette comédie musicale. La reine va y passer également, mais on va passer directement à la deuxième partie, puisque va s'acheminer petit à petit ce qu'on appellera la terreur. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui avec Jean-François, c'est comment on en est arrivé là ? Vas-y Jean-François, explique-nous tout ça.
Oui, ben pour expliquer cela, je vais commencer par une petite observation. Au début de l'année 1789, il est impossible, même pour les acteurs majeurs de cette période, de prévoir la terreur. Okay. Je voulais faire un petit portrait de ces futurs révolutionnaires, de ces futurs Marat, Robespierre qu'on connaît aujourd'hui comme acteurs majeurs de la terreur avant 1789. Donc déjà, on peut observer qu'ils vivent confortablement. Ce sont essentiellement des roturiers, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas nobles, ils ne sont pas membres du haut clergé. Ils exercent des professions libérales telles que avocats, médecins, ou alors ils sont agents du gouvernement.
C'est ce qu'on appellera après des bourgeois, dans la terminologie marxiste.
C'est ça, ouais.
Non, on est d'accord que c'est après.
Oui.
À l'époque, on dirait plutôt...
19e siècle, ouais. À l'époque, bien sûr, c'était pas pertinent.
Ils sont plutôt citadins. Hein. Certains vivent déjà dans la métropole parisienne de 600 000 habitants, d'autres dans des grandes cités provinciales ou dans des petites communes. Voilà, bref. Ils sont pas vraiment très riches pour certains. Leur début de carrière est un peu difficile. Ils luttent pour trouver leur place dans la vie, comme Robespierre, par exemple, qui vient de s'établir comme avocat dans la modeste ville provinciale d'Arras, ou comme Camille Desmoulins, qui, à cause de son bégaiement, emprunte de grandes sommes à son père et qui tente de devenir écrivain à Paris. Il y a aussi des députés pour d'autres, comme Barnave, Marat ou Brissot. Bref. Mais les difficultés économiques de ceux-ci n'expliquent pas seuls leur engagement radical futur, d'accord ? Puisque, en plus, la majorité des futures élites révolutionnaires sont déjà bien établies et sont des notables locaux dans leur petite commune.
Mmh.
Et puis en plus, ils portent quand même déjà les vêtements qui marquent leur supériorité sociale par rapport à d'autres personnes qu'on peut noter qui sont déjà bourgeois, quoi, finalement. Hein. Ouais. Ils portent par exemple des perruques boudrées, des culottes, des bas, des souliers à boucles d'argent. Bref, ils sont vraiment privilégiés quand même par rapport à l'essentiel de la population. Mmh. Ils sont aussi lettrés, ce qui n'est pas courant encore à ce moment-là. Ils sont aussi empreints des idées des Lumières. Ils ont foi dans le talent individuel et dans un esprit d'audace, un certain esprit d'audace. Mmh. Okay, et donc, ils vont se radicaliser au fur et à mesure des événements, mais ça va être un très lent processus, cette radicalisation.
Radicalisation, ouais. Donc on triple.
La première cause de cette radicalisation, ça va être l'ouverture des États généraux et les réunions des États généraux, où ils vont rencontrer, eux ils sont députés du tiers État, et ils vont rencontrer le mépris et l'intransigeance des nobles et des membres du haut clergé. Et parallèlement à cela, ils rencontrent aussi la ferveur et l'engouement des classes populaires qui voient en eux des futures solutions en fait, à leur pauvreté et puis à leur manque de démocratie, comme on l'a vu tout à l'heure. Et tout cela les renforce à poursuivre leur engagement et leur volonté de réforme.
Vous écoutez Poker Menteur sur Calade 100.9. Notre émission de ce mois est consacrée à la Révolution française avec la troupe au complet, Geneviève, Franck et Jean-François. Jean-François est en train de nous parler de tous les éléments qui ont amené la Révolution vers la période terrible de la terreur. Vas-y Jean-François.
Maintenant on en est à notre deuxième cause. Et cette deuxième cause, c'est la peur et les rumeurs et déceptions qui sont à l'origine finalement de la violence populaire. On a vu avec Franck que le roi perdait petit à petit du pouvoir. Et à l'été 1789, il y a des rumeurs qui circulent à Paris et en France que le roi veut faire intervenir des militaires un peu partout ailleurs. Et les Parisiens commencent à s'armer, les Français s'arment. Il y a une et du coup, cela peut expliquer ensuite la prise de la Bastille le 14 juillet, la création d'une garde nationale à Paris pour se protéger, et puis les attaques des châteaux en province, et puis tout ce qu'on connaît après la nuit du 4 août, l'abolition des privilèges, etc.
Tu es en train de nous dire, Jeff, qu'en fait, les fake news sévissaient déjà à l'époque.
Ça existait déjà. Et on va en reparler tout le long. En fait, il y en avait plein des fake news durant cette période.
D'accord.
Et ce sentiment de peur ne va pas disparaître tout de suite. Il va même rester en fait, tout le long jusqu'à la fin de la terreur. Ça va même se développer. Et une culture du soupçon, entretenue par une rumeur, par des rumeurs de complots contre-révolutionnaires, vont se développer. Ces rumeurs vont d'abord viser les prêtres réfractaires. Les prêtres réfractaires, c'est ceux qui refusent de jurer sur la Constitution civile du clergé, donc de prêter allégeance à la Révolution, finalement, quelque sorte.
Ah oui, ils restent fidèles au pape.
Voilà, ils restent fidèles au pape et non à la Révolution. Ça va viser aussi les nobles qui vont émigrer en masse. Et puis, à partir de 1791 et de la fuite à Varennes, ça va viser le roi, la personne du roi. Il va vraiment avoir une véritable rupture entre les Français et le roi. Et donc, la colère va monter contre le roi et contre l'Assemblée également, parce que l'Assemblée, à ce moment-là, défend encore le roi. Ok. La rupture fondamentale intervient le 17 juillet 1791 avec la fusillade du Champ de Mars. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simplement les Parisiens, les sans-culottes, les révolutionnaires qui refusent que le roi soit encore au pouvoir, vont signer une pétition au Champ de Mars pour une nouvelle autorité exécutive. Mais l'Assemblée qui défend encore le roi fait fusiller les manifestants. Okay.
Ah ouais. Il tire dans le tas, quoi.
Il tire dans le tas. Et là, les patriotes républicains et révolutionnaires, dont font partie nos futurs leaders de la terreur, eh bien, ils deviennent des suspects et ils sont obligés de s'enfuir. Par exemple, Marat, Desmoulins.
Suspects d'avoir organisé la manifestation, tu veux dire
D'être antipatriotes et de vouloir, oui, d'avoir organisé la manifestation et d'être contre l'Assemblée nationale. Voilà.
D'accord, ok.
Donc, ils sont obligés de partir et de se cacher. Ils sont un peu terrorisés par tout cela. Ok. Et avec la Révolution, finalement, on a la rumeur qui va se politiser petit à petit et qui va remplir l'espace quotidien parce qu'elle est aussi présente dans la presse qui va se développer, dans des nouveaux lieux de sociabilité aussi, comme les sections, les clubs, comme vous connaissez les Jacobins certainement.
Oui, oui, des clubs qui se multiplient à cette époque-là. Hein.
Ouais. Dans les gardes nationales aussi, qui se multiplient aussi.
C'est un peu l'ancêtre des partis politiques, on peut dire.
Oui, ouais, tout à fait. Ouais.
D'accord.
Et on va aussi encourager petit à petit la dénonciation. C'est pas très joli aujourd'hui, la dénonciation, oui. Mais à cette époque-là, bah, c'était quand même bien vu pour défendre la Révolution. Bon, on parlera de Marat et de Charlotte Corday plus tard, mais Marat, par exemple, dans son journal L'Armée du Peuple, ben, il y allait à fond dans la dénonciation, hein, d'accord ?
D'accord.
Et puis, ça se fait aussi aux échelles locales, notamment dans les comités de surveillance des sociétés populaires. Alors, au début, la dénonciation, elle vise les contre-révolutionnaires, ça paraît logique. Mm-hmm, okay. Ouais. Mais petit à petit, la dénonciation, elle va viser aussi les révolutionnaires, entre eux, qui sont
pas assez purs, en quelque sorte.
Voilà, qui sont pas assez purs.
Et là, c'est la mécanique infernale qui mène à la terreur, hein, ça
voilà.
C'est clair.
On a l'exemple du club jacobin de Bordeaux qui, après, petit à petit, se dénonce entre eux parce que qui est jaloux de l'autre parce qu'il a un poste à responsabilité et pas lui, qui pense que l'autre est révolutionnaire et voilà, pas assez révolutionnaire, etc. Et derrière tout cela, il y a la montée en puissance de la figure du complotiste. Qui est caché derrière le masque du patriotisme, d'accord ? Donc on a petit à petit un style de la politique qui se fait de plus en plus paranoïaque.
C'est-à-dire qu'on soupçonne certains de préparer des complots,
ouais,
c'est ça ?
Ouais.
Et donc on les dénonce, il est en train de préparer un complot.
Voilà. Et du coup ils se font juger, etc.
Donc c'est une façon de se débarrasser d'eux en les accusant de préparer des complots.
Et ce qui est compliqué en plus, c'est qu'il y a des vrais complots aussi. On l'a vu
avec c'est
la
ça, figure. Pareil. Voilà. Faire le tri entre les vrais et les faux complots.
Voilà. Et vient par-dessus tout cela la guerre parce que les puissances étrangères veulent rétablir Louis XVI sur son trône correctement,
la royauté,
avec tout le pouvoir, etc. La guerre, elle est donc lancée le 20 avril 1792. Et puis au début, accumulation de défaites. Du coup, suspicion, spectre du complot, encore une fois, peur, etc., qui s'accumule. Et là, on est arrivé sur une nouvelle cause de la terreur. C'est la dilution de l'autorité avec la fin de la monarchie avec le 10 août 1792 et la fin de Louis XVI. Pourquoi ? Bah parce que l'Assemblée n'est pas encore assez puissante pour tenir correctement Paris. Et elle est contrebalancée par d'autres pouvoirs, notamment la Commune de Paris qui est à ce moment-là très très forte.
À pas confondre avec la Commune de Paris de 70 ans après, bien sûr.
Ça rappelle une autre émission de Pokémon.
Voilà.
Et la Commune de Paris, elle se méfie de l'Assemblée, elle traque et arrête les opposants. Okay. À côté de ça, on a aussi à l'échelle des quartiers les sections qui surveillent la population du quartier et qui est la police politique finalement du quartier.
Tu as tout un ensemble de pouvoirs qui sont assez qui ont des marges d'indépendance et c'est pas évident d'arriver à contrôler tout ça quoi.
Exactement. Mm-hmm. Ouais. La guerre est toujours là en toile de fond. Les Prussiens percent de plus en plus, prennent Verdun, donc ils sont pas si loin que ça de Paris. Et du coup, le peuple parisien suppose que le complot il se trame dans les prisons, c'est ceux qu'on a arrêtés qui sont dans les prisons et qui ont fait des complots. Et donc, ils vont attaquer en septembre 1792 les prisons et exécuter les prisonniers présents.
Ils rentrent dans les prisons pour exécuter les prisonniers.
Oui, ils vont faire 1100 à 1400 exécutions. Et le pouvoir, l'Assemblée qui a le pouvoir à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire ? Bah, rien. Ils vont.
Ils sont débordés.
Et finalement, on se rend compte que la violence fait partie du processus politique partir de ce moment-là. Mmh. Voilà.
Et il y avait aussi l'ennemi interne, n'oublie pas, hein, les Vendéens et les Chouans.
Ils arrivent.
Une guerre civile aussi.
Ils arrivent. Oui. Autre moment fort, c'est le procès du roi, qui débute en décembre 1792, qui va renforcer la diabolisation de l'adversaire. Donc Franck en a déjà parlé, mais le roi, à ce moment-là, est vraiment diabolisé. On l'appelle, on l'insulte allègrement. Ça devient un monstre et une bête féroce. La guerre est toujours là. La convention pour faire face à la guerre va faire la levée en masse, va lever 300 000 hommes supplémentaires. Et du coup, comme disait Franck, beaucoup de provinces se soulèvent contre ça, notamment les Vendéens, tout très bien. Et du coup, pour la Convention, ceux qui se soulèvent contre la levée en masse, bah, c'est des contre-révolutionnaires forcément. Et du coup, il faut les attaquer aussi. Elle met en place tout un arsenal législatif pour mettre fin à ce qu'ils considèrent comme des contre-révolutionnaires, notamment le tribunal révolutionnaire, des comités de surveillance qui encouragent encore les dénonciations et la répression s'accentue. Ouais. Le 6 avril, on a la création d'un comité de salut public qui est dominé par les montagnards. Qui va supprimer l'immunité parlementaire, c'est-à-dire qu'on peut s'attaquer dorénavant aux députés.
Même les députés ne sont plus à l'abri.
Voilà. Les Girondins, ils vont tenter de prendre le dessus dans un premier temps en arrêtant Marat et Hébert, mais les deux vont réussir à s'en sortir, en fait, après un procès. Et puis, ils sont soutenus par les sans-culottes. Et on va avoir un nouveau tournant dans la radicalisation et l'intransigeance des montagnards avec l'assassinat de Marat, le 13 juillet 1793.
Okay.
Marat qui dénonçait beaucoup de gens dans
c'était un dur, ouais,
journal. Et d'où son assassinat, parce qu'il faisait peur. Et là, donc, renforcement de la terreur, parce que les révolutionnaires ont peur pour leur vie, donc ils mettent encore des nouvelles lois pour renforcer la terreur, notamment la loi des suspects du 17 septembre. Et là, c'est super facile d'être un suspect. Hein. Tout le monde peut être balancé facilement et se retrouver en prison et puis rapidement exécuté. Ok. Le 31 octobre 1793, c'est les Girondins qui font Girondins qui sont des révolutionnaires aussi. Hein. Donc là, on voit maintenant qu'à l'intérieur des révolutionnaires, députés qui se font arrêter et exécuter. Et du coup, Robespierre finalement a gagné et se retrouve au pouvoir.
Dans ton déboulin, Favre d'Églantine, à la guillotine. Je n'ai plus un ami, Charles Gauthier est emprisonné à la conciergerie.
Écoutez Poker Menteur sur Cala, notre émission du mois de juillet consacrée à la Révolution française. Jean-François est en train de nous parler de la terreur. Vas-y, finis Jean-François.
Oui, je voulais revenir un petit peu sur le paradoxe de la terreur et de cette période-là. Puisque d'un côté, on a la recherche d'une société quand même plus juste avec l'abolition de l'esclavage et puis l'instruction gratuite qui est faite. Mais de notre côté, on a la peur, la suspicion, l'intolérance qui monte et qui entraîne une politique répressive d'État qui est inédite en France à ce moment-là et qui est dirigée non plus seulement contre les contre-révolutionnaires, mais, comme l'illustre la mort des Girondins, aussi contre les révolutionnaires de la première heure. Okay. Et à l'intérieur des montagnards, maintenant, on va voir une nouvelle division. Et début 1794, Robespierre va s'en prendre aux indulgents qui sont Danton et Desmoulins, qui sont ses copains quand même, mais il va s'en prendre en eux. Il va aussi s'en prendre contre la ligne radicale représentée par Hébert. La terreur se fait de plus en plus forte. Printemps 1794, on a 300 000 suspects qui sont arrêtés. L'exécution de 17 000 personnes à l'issue de procès qui sont souvent très très expéditifs. En juin 1794, nouvelle montée en force de la terreur. Peur, paranoïa de Robespierre, il a peur de finir comme Marat. Hein.
Comme les autres, voilà.
Comme les autres.
Comme tous les autres.
D'autres membres du comité de salut public sont comme lui et les exécutions sont de plus en plus massives, ça n'arrête pas. On supprime la liberté de la presse, on supprime la liberté de parole. Et du coup, au fur et à mesure, quand même, les députés commencent à s'en prendre à Robespierre et font un complot là, pour renverser Robespierre, cette fois-ci, au mois de juillet. Et le 28 juillet, Robespierre, son frère, Couthon, Saint-Just et d'autres sont condamnés et exécutés le 28 juillet 1794 ou 9 thermidor.
Est-ce que c'est ça qui va mettre la fin à cet enchaînement fou ? Incontrôlé.
Et c'est la mort de Robespierre qui met fin à la terreur. Les députés de la plaine vont prendre le pouvoir et vont aplanir un petit peu les choses.
Poker menteur.
Poker menteur.
Calade.
On va passer maintenant dans cette émission consacrée à la Révolution française, après donc une première partie où Franck nous a parlé du couple royal, une deuxième partie où Jean-François nous a expliqué les mécanismes qui ont amené à cette terreur, à cet déchaînement infernal de la terreur. On va passer à la troisième partie avec Geneviève qui va nous parler donc des femmes dans la Révolution et de tout un tas d'autres choses encore. Geneviève, tu as la parole.
Oui, oui, non, mais d'abord, une petite chose que je tiens à te dire, Patrick, c'est que je ne vais pas abattre d'hommes, je vais abattre des clichés.
Oui, tu as raison. Mais des fois, c'est pas mal aussi de les menacer, de les abattre.
Oui, il faut les abattre. Ouais. Parce que, premier cliché, je vais vraiment cerner mon propos sur trois clichés. Mm-hmm. Rien bien prégnant, qu'on a tous en tête. Peut-être déjà pour démarrer, tout simplement, quelle image vous avez de la femme sous la Révolution ? Comment elle est habillée ? Comment elle se comporte ? Est-ce qu'elle est bien vue ?
Alors, ça dépend quel type de femme. On parle de la paysanne ou la...
L'aristocrate.
La révolutionnaire.
Parce que c'est,
voilà, la révolutionnaire.
Une sans culotte, alors.
Une sans culotte. Ah bah tiens, intéressant. Qu'est-ce que t'en dis, Mathieu ?
C'est Marianne sur la barricade.
C'est ça ?
Excellent.
Ah, je croyais que c'était après, moi, Marianne. Plutôt.
Non, non, c'est ça. L'allégorie de Marianne, le symbole de Marianne, date vraiment de la Révolution.
Bravo, Mathieu.
Ouais. Super. Bon point, bon point. Qu'est-ce que tu en dis, Jeff ?
Bon, je vais poursuivre avec Mathieu. Je laisse poursuivre.
Donc, en clair, une sans-culotte. Et une sans-culotte, c'est intéressant parce qu'on le rappelle quand même, ça veut dire des femmes en pantalon.
C'est ça, voilà. Tout à fait.
Précisément sur les caricatures, les tableaux, enfin toutes les images que vous pouvez avoir en tête en même temps que moi, chers auditeurs, c'est une femme avec des jupons. Mmh. Une femme qui s'habille avec un bonnet dit à la nation, qui porte plein de médailles de ses idoles, Marat, Robespierre, voilà. Donc il y a un vrai culte qui est rendu aussi à ces grandes figures de la Révolution. Elle porte des vêtements aux couleurs du coup de la nation, du bleu, du blanc, du rouge. Et très clairement, elles essayent d'avoir une image qui change petit à petit. Des cheveux qui se raccourcissent. On dit même d'ailleurs des cheveux courts à la jacobine.
D'accord.
Et quelque part, elles s'engagent. Alors, on a cette image des femmes le 6 octobre, justement, qui vont à Versailles pour ramener le petit mitron, la boulangère et le boulanger, à savoir donc le couple royal, hein, Franck, ce que tu disais tout à l'heure, pour les ramener à Paris. Parce qu'en fait, les révolutionnaires... À l'époque, donc les sans-culottes, à ce moment-là, ils pensent vraiment que le roi, il ne sait pas. Il ne sait pas que les Parisiens sont malheureux.
C'est ça, il faut l'informer.
Il faut l'informer. Il n'est pas au courant. Parce qu'à Versailles, on
ne
lui dit pas tout. Et puis à Versailles, il est avec Marie-Antoinette, Strasse, Payette, grande fête. Voilà,
c'est
il
une
sait
façon
pas.
De l'exempter au départ.
Exactement. Hein, oui, il y a une vraie indulgence.
De sa responsabilité.
Il est aimé. Et donc, il le ramène, elle le ramène, du coup. À Paris. Et donc ça, c'est encore un autre cliché, à mon sens, c'est que souvent, on a cette image des femmes qui se sont engagées, mais juste par la manifestation, de façon pacifique, avec cette idée que les femmes, justement, elles sont là pour protéger leur famille avant toute chose, alors qu'en fait, les femmes, elles prennent les armes aussi.
Ouais,
elles se battent et elles portent le pantalon à l'Amazone. Et d'ailleurs, il y a un terme qui a complètement disparu de notre vocabulaire, mais on parle de soldate.
Ah oui.
Et dans les archives, on retrouve profession soldate, profession boutiquière.
Ça, c'était complètement inédit, on est d'accord ?
On est
déjà
d'accord.
La tenue que tu as décrite et la profession soldate, tout ça, c'était de l'inédit. Hein.
C'est de l'inédit.
Du jamais vu.
Du jamais vu. Parce que justement, cette révolution, elle va offrir à ces femmes un moyen de se battre pour une véritable égalité.
Alors une question, Geneviève, est-ce que c'est propre à Paris ou dans d'autres villes de province ?
C'est propre à Paris.
Ouais, c'est ça. Hein.
Évidemment.
Cette révolution, c'est un phénomène vraiment parisien en grande partie, pas uniquement, mais en grande partie quand même.
À Paris et la province. Hein. Je crois que ça date un petit peu de cette période-là aussi. Hein.
D'accord.
Donc ces femmes, elles vont petit à petit, deuxième cliché, apparaître comme des espèces de furies qu'on doit remettre dans leur foyer. Hein. Donc à ce moment-là, on les appelle des tricoteuses. On parle de ces femmes qui, du coup, assistent. Comme elles ne peuvent pas participer directement au débat, elles assistent aux assemblées en étant dans les étages.
Dans
et
les
donc...
travées. Et elles tricotent un truc en écoutant. Voilà. C'est un peu l'image d'Épinal.
Non, mais voilà, elles écoutent en même temps. Tu parles rien du tout. Mais comme c'est beaucoup plus joli de penser qu'elles sont en train de tricoter pour leur petit bébé, etc. Okay. C'est mignon, en fait.
D'où le terme.
Voilà. Et puis c'est surtout hyper rabaissant. C'est surtout hyper misogyne de dire ça. Mm-hmm. Enfin, les tricoteuses, c'est bon, quoi. On n'a pas envie de vous écouter. D'accord, vous rentrez chez vous maintenant, hein? On libère l'espace public.
Et en même temps, c'est pas très cohérent parce qu'on furie d'un côté, ça, c'est le côté reconnaissance de qu'elles sont devenues des soldates, et tricoteuses, c'est au contraire l'image de la femme traditionnelle. Ça manque de cohérence. Tout ça
manque de cohérence et en même temps, c'est quand même extrêmement méprisant.
Ouais, bien sûr.
Donc, c'est en clair, on a deux catégories de révolutionnaires, femmes, donc. Soit ce sont des furies, Ah, d'accord. Et la guillotine.
On dit qu'il y a deux catégories.
Folles.
Là. D'accord, ok. Des folles ou des.
Des folles, femmes... soit des.
Des femmes au foyer, quoi.
Des femmes au foyer, voilà. D'accord. Et entre les deux, il n'y a rien.
D'accord.
Et ça, c'est vraiment une image contre laquelle il faut lutter. Les femmes travaillent. Elles n'ont même pas, enfin, elles n'ont pas un revenu juste d'appoint. Hein. Elles sont une force vive du foyer. Elles ont une situation. Elles sont pas forcément très éduquées, mais elles savent quand même lire et écrire. Et elles ont envie donc de se saisir elles aussi de cette révolution pour cette fameuse égalité. Sauf que, évidemment, vous vous en doutez bien, ça ne plaît pas à tout le monde. Ouais. Hein, des femmes qui prennent le pantalon, qui prennent les armes, qui s'habillent en coupant les cheveux. Mais qu'est-ce que c'est que ces folles qui s'abattent sur la place publique? Donc, très rapidement, il va y avoir toute une série de lois où on va les virer littéralement de l'espace public. Donc, en 1793, elles sont virées des armées. Voilà, plus de soldats.
D'accord.
On les renvoie chez elles avec 5 sous et c'est terminé. On va les virer aussi des clubs. On va fermer systématiquement tous les clubs de réflexion qui sont justement des clubs très importants à l'époque, avec des grandes figures qui du coup émergent à nouveau un petit peu dans nos représentations
modernes de la Révolution.
Voilà, comme Olympe de Gouges,
voilà,
par exemple,
de Gouges, ouais.
qui est une figure très centrale. L'idée, c'est vraiment, on les exclut de l'espace public pour les emmener, pour les ramener dans le privé. Voilà.
Tentative Terminé. De reprise en main du système patriarcal, quoi, en quelque
Exactement.
Sorte.
Exactement. Très important, ce mot. Et donc, un bon point de plus
Merci.
Pour Prof. Patrick. Donc, et non seulement on ne veut plus les voir, mais du coup, en 1795, on ne veut même plus qu'elles s'attroupent. C'est-à-dire qu'à partir de 5 personnes,
D'accord.
oulala, danger, il faut les ramener de force.
De femmes.
Exactement,
wow.
chez elles.
Incroyable.
Alors à ce moment-là, on pourrait se dire, ben oui, alors en fait, ça veut dire que les femmes, elles ont commencé à avoir des droits au début de la Révolution, et puis plus rien, processus démocratique inachevé.
Ouais, bien sûr. Mais c'est une des critiques faites à la Révolution, pas que sur la question des femmes.
Pas que sur la question des. Oui, souvent, c'est d'ailleurs dans les livres d'histoire un petit peu un titre clé de chapitre, la Révolution inachevée.
Ouais.
Ouais. Sauf que il y a des historiennes, je suis désolée, qui sont revenues un petit peu là-dessus en disant que finalement, c'était pas du tout inachevé. Au contraire, ça a été complètement intentionnel. Pourquoi ? Eh ben, tout simplement parce que en remettant les femmes dans le cadre du foyer. Eh bien, on va inventer un truc quand même rudement pratique qui va bien servir cette nouvelle classe bourgeoise naissante. Hein, on en a parlé avec la partie de Jeff. Et donc, cette bourgeoisie, elle repose sur un socle important, le couple. Et donc, à partir de là, les femmes, du coup, ne sont exclues des armées, donc je l'ai dit tout à l'heure. Elles ont le droit de se marier sans accord parental. Donc, elles acquièrent quand même... une petite forme de liberté,
D'accord.
une meilleure éducation,
une marche
je l'ai
supplémentaire,
dit aussi.
Ouais.
Voilà, une marche vers plus de droits.
Ouais.
Mais comme finalement très rapidement, on rend ce modèle familial qui repose sur le couple comme étant essentiel pour que cette révolution se passe bien. Il y a des députés qui vont dire par exemple qu'il faut un roi dans la famille. Pour ne pas en avoir dans la société.
Donc,
on investit le chef de famille de beaucoup plus
c'est
de poids.
C'est l'émergence d'un nouveau paradigme, en quelque sorte, avec la famille nucléaire, la femme au foyer, le père tout-puissant, etc. Et qui émerge, et c'est l'émergence aussi du modèle bourgeois, en quelque sorte.
Exactement.
Qui apparaît progressivement, là.
C'est exactement ça, avec le retour. Alors, qu'on a appelé, depuis l'Antiquité, le patriarcal. Merci. Et en fait, il y a des historiennes qui vont du coup parler de conjugalisme. Ben oui, parce que le couple conjugal, du coup, est ce socle sur
D'accord.
lequel la société se
D'accord.
construit. Voilà. Et donc, du coup, c'est pas gênant que les femmes votent pas, puisqu'en fait, ce qui compte, c'est le couple, c'est
Tant
la famille.
Font la tambouille.
Attends.
Qu'est-ce que des gosses ?
L'homme vote, c'est bon.
Ça
pas besoin
suffit.
De plus. Donc, c'est pas du tout un processus inachevé.
C'est l'émergence d'une révolution bourgeoise, quelque part.
Exactement. Et comme dans toute révolution, rappelons-le, hein, le sens premier du mot révolution, c'est la Terre sur elle-même, la Terre autour du Soleil, mais on revient toujours à une place
D'accord.
qui est une classe dominante, ce n'est plus la noblesse, c'est
à la bourgeoisie. Une nouvelle forme de stabilité.
Exactement. Donc, si je récapitule, les femmes, donc trois clichés. Un premier cliché, les femmes sont montrées comme étant... des espèces de furies, voilà, on a parlé à plusieurs reprises de Marat. Évidemment, celle qui va assassiner Marat et qui va du coup incarner vraiment toute cette folie contre laquelle il faut lutter, c'est Charlotte Corday.
Charlotte Corday.
Alors, citoyenne, on entre sans frapper? Tu veux voir le citoyen Marat tout nu dans son bain? Comment t'appelles-tu?
Charlotte.
Mais tu as de beaux yeux, citoyenne. Approche un peu ici. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oh, mais dis donc, tu as de beaux seins.
C'est vrai, tu les aimes, citoyen?
Viens, Charlotte, viens.
Oui, Marat.
Ah, Charlotte.
Ah, mon Marat.
Mais comme tu as l'air méchante tout à coup.
C'est pour mieux te faire peur, gros voyou.
Et pourquoi caches-tu ce grand couteau?
C'est pour mieux te saigner, mon salaud. Tiens!
Vous écoutez Poker Menteur, l'émission de ce mois consacrée à la Révolution. Nous venons d'écouter un extrait absolument extraordinaire de la comédie musicale opéra rock La Révolution Française, qui raconte l'histoire donc de l'assassinat de Marat par Charlotte Corday, qui a littéralement effondré Geneviève. Malgré tout, reprends-toi et reprends la parole.
Je ne peux pas vous laisser, chers auditeurs, avec ça dans les oreilles, sans lutter activement pour établir certaines vérités.
Vas-y, hein? Vas-y, on t'écoute.
Mais, oh. Alors voilà, bah, tout est dit, hein, Charlotte Corday, c'est le petit chaperon rouge, hein, voilà, c'est ça contre le grand méchant loup. Bon, rappelons-le, Marat, il est très populaire à l'époque, hein, il est aimé des femmes, hein, véritablement, c'est, on va peut-être pas dire sexe symbole, mais en tout cas, c'est une figure, c'est une idole, voilà, littéralement. Et donc forcément, en l'assassinant, eh ben, elle va incarner du coup le mal, et elle va avoir un procès... extrêmement expéditif, les gens vont s'acharner contre elle. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en même temps, eh bien, du coup, elle va devenir une espèce d'égérie royaliste, ce qu'elle n'est pas.
Tout à fait. Qu'elle n'est pas à la base.
Ouais. Elle n'est pas du tout, en fait. Elle est jacobine.
Parce que si on remet en contexte, ouais. Jean-François l'a dit, mais c'est important de le redire, Marat, c'était l'exemple type du révolutionnaire le plus dur, l'acteur hyperactif de la terreur, du déchaînement de violence de la terreur, et c'est ça qu'elle a voulu casser, en quelque sorte.
Exactement.
Hein, Charlotte
Corday. Elle l'a écrit. Hein, on a des preuves de ça, quand même. Hein. C'est-à-dire que j'ai tué un homme pour en sauver 1000. Et au moment de son procès, elle va même dire « Je veux que mon dernier soupir soit utile à mes concitoyens, que ma tête portée dans Paris soit un signe de ralliement pour tous les amis des lois. » C'est-à-dire, on fait la révolution, c'est bien, mais on veut quand même des choses
contre
concrètes.
Contre le déchaînement de la terreur.
Voilà, exactement. Que je sois leur dernière victime et que l'univers vengé déclare que j'ai bien mérité de l'humanité.
Mais en fait, ça a été contre-productif tout ça, parce qu'en fait, elle a déclenché. C'est quand ça exactement? L'assassinat de Marat.
Bah, c'est en 1793.
C'est juste 1793. Avant la terreur, en fait.
Bah, ça va
accentuer la haine des révolutionnaaires contre les.
Bah, disons que cette mécanique infernale ne pouvait pas te stopper juste par ça.
Mais la violence appelle la violence.
Elle ne voulait pas qu'il y ait ce genre de réaction, et malheureusement, c'était incontrôlé.
Ben oui, mais elle n'a pas été écoutée, puisque de toute façon, on a fait une folle. Oui. Donc par définition, on ne pouvait pas apporter du crédit à ses propos.
Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quelquefois, on pense faire quelque chose dans une action et c'est quelque chose d'autre qui arrive.
Bien sûr.
Et oui, et pourquoi? Parce que ses propos, parce que ses actions sont récupérées et dénaturées quelque part.
Surtout par la presse, à mon avis, révolutionnaire de l'époque.
Oui, qui s'est saisie de ce personnage, comme elle s'est saisie aussi de Marie-Antoinette, donc au départ qu'on qualifie d'autrichienne. De façon assez maîtrisante l'étrangère. Et puis, petit à petit, il va y avoir vraiment un glissement dans les propos et on va arriver jusqu'à des insultes ordurières. Et, à mon sens, vraiment le plus insupportable pour Marie-Antoinette, on va l'accuser quand même aussi d'inceste et de maltraitance sur son fils. Et on va les séparer de façon vraiment extrêmement violente. Au moment de la Révolution, quand ils sont enfermés en temple, on lui arrache son fils, qui est probablement la seule chose qui lui reste pour passer ces épreuves difficiles. Et on l'accuse et on la traite et on monte son fils contre elle. On l'incite à insulter sa propre mère, en fait. Et pour moi, on est vraiment là, du coup, dans une mécanique, Jeff l'a très bien décrit, une mécanique de violence physique, de violence par les mots. Et
de déchaînement incontrôlé, en fait.
Exactement.
On se dit, mais comment on arrête cette mécanique?
Ça fait penser au futur régime totalitaire, pour moi.
Ça a été beaucoup dit que cette période-là a été la matrice, la matrice de tous les mécanismes totalitaires du XXe siècle.
On parle de police politique, on parle de contrôle des esprits.
Tribunal révolutionnaire.
Tribunal, ouais, complètement.
Ça a été le meilleur et le pire, la Révolution française.
heureux, un compagnon de jeu, un soir à pleurer mon départ. Déjà plus très loin, la dernière étoile pâlit à la fenêtre. Ils vont venir bientôt et je suis déjà prête à suivre le chemin de mon dernier matin.
Nous venons d'écouter la bouleversante déclaration de Marie-Antoinette sur la fin de sa vie, qui est tout à fait raccord avec ce que Geneviève venait de nous présenter. Hein. Nous sommes dans notre Pokermenteur de ce mois consacré à la Révolution française et à une partie sur les femmes, les stéréotypes autour des femmes dans la Révolution. Donc Geneviève, c'est à toi à nouveau.
Eh ben écoute, je vais faire ça efficace. Donc si je résume, premier cliché, donc les femmes à cette époque acquièrent plus de liberté, elles se battent, elles se mettent en pantalon, en Amazone. Deuxième cliché, les femmes n'ont pas obtenu de droit parce que processus démocratique inachevé, faux, c'est une intention. Et troisième cliché, les femmes sont folles, les femmes doivent être enfermées, les femmes sont des furies de guillotine comme Charlotte Corday. Donc là, on a bien compris que c'est faux aussi. Et donc, je rebondis. Enfin, vous voyez, il y a quand même une suite dans tout ça, sur la proposition de Mathieu qui était finalement les femmes sont aussi montrées comme des symboles. Exemple, Marianne. Et bien ça aussi, c'est intéressant. Et je termine là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'au final, elles n'ont pas le droit de vote, mais elles existent dans l'espace politique, puisqu'elles sont représentées, qu'elles incarnent la douceur de la patrie, elles incarnent la liberté, l'égalité, la fraternité, la République. Elles incarnent la République. Alors là, c'est, on est d'accord, pas d'accord, mais en tout cas, c'est une idée que je trouve intéressante. Il y a certaines historiennes qui ont dit que finalement, si les femmes avaient à ce moment-là obtenu le droit de vote, eh bien peut-être qu'on aurait incarné la République complètement différemment, avec peut-être une fleur ou un animal ou un objet, puisqu'il n'y aurait pas eu besoin de rappeler l'image de la femme par le biais de ces grandes figures, de ces allégories, qui sont effectivement très importantes dans la peinture et qui sont, pour l'époque, suffisantes à dire, ben voilà, les femmes ont obtenu quand même des choses. Taisez-vous un peu, rentrez chez vous.
Merci Geneviève, tu as terminé ?
J'ai terminé.
C'est très bien.
Et je précise, il n'y a pas eu de sang sur le plateau. Hein.
Non,
ça va bien.
Tout à fait.
Je n'ai abattu personne.
Nous sommes toujours vivants.
Voilà, dites-le haut et
pour
fort.
Pour les toutes dernières minutes qui nous restent, je voulais juste rebondir sur ton deuxième stéréotype où tu dis donc que ce n'est pas une révolution inachevée, c'est une révolution donc, bourgeoise qui est arrivée à son terme. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi voir cette révolution comme quelque part une sorte de creuset, hein, sous forme de bouillonnement non structuré au départ, de tout un tas de possibles. Je pense par exemple au possible de la révolution à la Robespierre, non pas dans sa dérive totalitaire, mais dans toutes ses idées. C'est Robespierre qui incarnait les idées les plus audacieuses sur le plan de la démocratie, sur le plan d'un État social qu'il anticipait. Mais quelque part, dans ce cheminement torturé de la révolution, eh bien, c'est pas ça qui a émergé. Cette partie-là de Robespierre, je dirais, il s'est dévoré lui-même, hein, à travers la terreur. Et donc, il en est resté, je dirais, celui qui survivait à la fin de la compétition, la révolution bourgeoise, en quelque sorte.
Exactement.
D'accord. Donc, pour moi, je vois plus ça comme un bouillonnement avec un vainqueur final plutôt qu'une révolution mûrement pensée bourgeoise dès le début.
Oui, complètement. Ouais. C'est un processus qui, à un moment donné, a dérapé et qui n'a pas du tout abouti.
Qui a eu ses accidents et hop.
Voilà. Et qui n'a pas abouti à ce qui avait été au départ pensé, c'est-à-dire une vraie réforme de société.
D'ailleurs, quand fait-on vraiment terminer la Révolution française ?
Ça, c'est un débat historiographique important.
Vous avez deux heures.
Avec la Troisième République ou pas, ou plus tard.
Napoléon, héritier, ou fossoyeur.
Oui, aussi.
Très bien, c'était donc notre émission de l'été sur la Révolution française avec notre gang d'historiens, Geneviève, Franck et Jean-François. Passez un bon été, messieurs, dames, et à la rentrée. Merci Mathieu.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
Avec Patrick Trouilloux. Dans le rôle de Patrick Trouilloux.
Et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
L'émission qui interroge le monde.
De Villefranche à Tataouine.
Galade. 100.9.